Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Et oui, c'est la rentrée, donc après les deux mois d'été d'interruption des émissions d'Amnesty International, pour cause bien sûr de coupure estivale comme tous les ans, nous sommes heureux de vous retrouver, les auditrices et les auditeurs de Principe Actif, pour reprendre nos émissions bimensuelles sur l'actualité des droits humains, tout ce que fait Amnesty par rapport à ça, les dossiers, les nouvelles, les coups de gueule, etc., les appels à l'action, et tout ce qui va et tout ce qui va pas. Bien sûr, malheureusement, pour les droits humains, il y a beaucoup plus de choses qui ne vont pas que de choses qui s'améliorent, mais on vous parlera quand même aussi des choses qui s'améliorent, parce qu'il y en a, heureusement. Donc voilà, une année, effectivement, pour nous retrouver tous ensemble autour du micro, des micros et des ondes de Principe Actif. Donc le mardi, deux mardis par mois, en direct sur l'antenne de 19h à 20h. Et pour animer l'émission ce soir de reprise, il y a Claire Lise.
Bonsoir.
Et... Ah, j'ai oublié de mettre vos micros, mesdames. Voilà, c'est réparé.
Ça commence à
Redis-nous bonsoir.
Il faut être prêt à se battre. Hein. Bon, même pour la parole sur les ondes. Bonsoir à tous.
Et Sabine.
Bonsoir.
Voilà, Sabine, on t'a bien entendu parce que ton micro était bien dans ligne. Voilà.
D'accord.
Ah, excusez-moi, je suis pas un technicien professionnel. Hein. Il faut que je reprenne mes marques. Hein. Voilà. Donc, mais ça va bien se passer. Donc, évidemment, pour commencer l'émission, on ne pouvait pas faire autrement que de vous parler de la situation dramatique en Afghanistan, bien sûr, qui préoccupe beaucoup Amnesty, comme toutes les organisations de défense des droits humains. Et donc, on va vous en dire effectivement quelques mots, et on va vous faire aussi un appel à l'action par rapport à ça, mais je crois que c'est Sabine qui avait des choses à vous dire.
Oui, je vais être porte-parole de Sarah Karimi, voilà, qui le 16 août... a fait une déclaration et souhaitait qu'on la partage.
Excuse-moi. Donc, Sabine, voilà. Sarah Karimi, tu peux dire qui c'est ?
Alors, c'est une cinématographe. Ben, elle le dit en se présentant.
Ah, donc, très bien.
On va la laisser faire. Donc, à toutes les communautés cinématographiques du monde et qui aiment le cinéma, par la réalisatrice afghane Sarah Karimi. Je m'appelle Sarah Karimi, réalisatrice de cinéma et actuelle directrice générale du film afghan, la seule société de cinéma déclarée établie en 1968. Je vous écris avec le cœur brisé et un espoir profond que vous puissiez vous joindre à moi pour protéger de belles personnes, en particulier des cinéastes talibans. Des cinéastes enquiquinés par les talibans.
Oui.
J'ai dû oublier quelque chose.
Oui. On imagine bien que les talibans ne sont pas vraiment copains avec le cinéma.
Molestés par les talibans. Au cours des dernières semaines, les talibans ont pris le contrôle de tant de provinces. Ils ont massacré notre peuple. Ils ont kidnappé des enfants. Ils ont vendu des filles pour les marier à leurs hommes. Ils ont tué une femme pour sa tenue. Enfin, une, à ce moment-là. Ils ont jaugé les yeux d'une femme. Ils ont torturé et tué un de nos comédiens adorés. Ils ont tué un de nos poètes historiens. Ils ont assassiné le chef de la culture et des médias pour le gouvernement. Ils ont assassiné des personnes affiliées au gouvernement. Ils ont pendu certains de nos hommes publiquement. Ils ont déplacé des centaines de milliers de familles. Les familles sont dans des camps à Kaboul après avoir fui ces provinces. et elles sont dans un état insalubre. Il y a des pillages dans les camps. Il y a des bébés qui meurent parce qu'ils n'ont pas de lait. C'est une crise humanitaire. Et pourtant, le monde est silencieux. Nous nous sommes habitués à ce silence. Pourtant, nous savons que ce n'est pas juste. Nous savons que cette décision d'abandon, d'abandonner notre peuple, est fausse. Que ce retrait rapide des troupes est une trahison de notre peuple. Et tout ce que nous avons fait quand les Afghans ont gagné la guerre froide pour l'Ouest. Notre peuple a été oublié à l'époque, menant à la sombre règle des talibans. Et maintenant, après 20 ans, d'immenses gains pour notre pays et surtout pour nos jeunes générations, tout pourrait être perdu à nouveau dans cet abandon total. Nous avons besoin de votre voix. Les médias, les gouvernements et les organisations humanitaires mondiales sont pratiquement silencieux, comme si cet accord de paix avec les talibans était légitime. Les reconnaître leur a donné la confiance nécessaire pour revenir au pouvoir. Les talibans ont brutalisé notre peuple. Tout au long du processus de négociation, tout ce que j'ai travaillé si dur pour construire en tant que cinéaste dans mon pays risque de tomber si les talibans prennent le dessus. C'est chose faite. Ils vont interdire tout art. Moi et d'autres cinéastes pourraient être les prochains sur leur liste de succès. Ils dépouilleront les droits des femmes. Nous serons poussés dans l'ombre de nos maisons et nos voix, notre expression sera étouffée dans le silence. Quand les talibans étaient au pouvoir, zéro fille était à l'école. Depuis, plus de 9 millions de filles afghanes y allaient. C'est incroyable. La troisième Herat, la troisième plus grande ville qui vient de tomber aux talibans, a compté plus de 50% de femmes dans son université. Ce sont des gains incroyables que le monde connaît à peine. Au cours de ces quelques semaines, les talibans ont détruit beaucoup d'écoles et 2 milliards de filles sont obligées de quitter l'école, 2 millions, pardon, à nouveau. Je ne comprends pas ce monde. Je ne comprends pas ce silence. Je vais rester et me battre pour mon pays. Depuis, elle a quitté quand même le pays parce que ça devenait vraiment dangereux. Mais je ne peux pas le faire seule. J'ai besoin d'alliés comme toi. S'il vous plaît, aidez-moi à faire en sorte que ce monde se soucie de ce qui se passe. Aidez-nous, s'il vous plaît, en informant les médias les plus importants de vos pays, de ce qui se passe ici en Afghanistan. Si les talibans prennent le contrôle de Kaboul, nous n'aurons peut-être plus accès à Internet ni à aucun outil de communication. Veuillez engager vos cinéastes, artistes, pour nous soutenir, pour être notre voix. Cette guerre n'est pas une guerre civile, c'est une guerre par procuration, c'est une guerre imposée. Et c'est le résultat de l'accord américain avec les talibans. S'il vous plaît, autant que vous pouvez partager ce fait avec vos médias, écrivez pour nous sur vos réseaux sociaux. Le monde ne devrait pas nous tourner le dos. Nous avons besoin de votre soutien et de votre voix. Au nom des femmes afghanes, des enfants, des artistes, des cinéastes, ce soutien serait la plus grande aide dont nous avons besoin en ce moment. C'était cette déclaration, elle a faite le 16 août 2021.
Et le 16 août, en France, notre président Macron a fait une allocution qui n'est pas passée inaperçue. Enfin, en tout cas, une petite phrase, c'est qu'il fallait faire attention au flux migratoire excessif. Oui. Ça a choqué beaucoup de monde et on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde avec ce que pense notre président, parce que par rapport à l'accueil des migrants, c'est vrai qu'ils ont accueilli environ 600 ou 800 personnes venant d'Afghanistan et qui ont aidé l'armée française, qui ont collaboré avec les Français sur place. Donc, les personnes qui ont collaboré et leurs familles sont arrivées en France. Mais il reste tellement de monde là-bas. C'est vraiment... c'est incroyable, en plus, de dire... effectivement, eux, ils ne faisaient pas partie des ponts aériens. Tous les gens qui sont restés là-bas, ils ne font pas partie des ponts aériens. Mais il y en a beaucoup qui vont essayer de quitter le pays parce que ça risque d'être infernal pour eux. Et d'entendre un dirigeant d'un des plus grands pays occidentaux dire « Oui, mais il faut faire attention au flux migratoire excessif », c'est quand même pas très honorable.
C'est pas franchement une déclaration d'aide.
Non. C'est le moins qu'on puisse dire, Clarisse, que tu...
Je suis désolée, j'ai répondu spontanément.
Non, non, mais c'est très bien, parce que...
J'ai pas été énervée, mais pourtant, je bouillonne.
Tu as raison à 150%.
C'est la réponse qu'il a donnée.
Tu as raison à 150%, et c'est même des propos qu'on pourrait qualifier d'insupportable. Voilà.
Donc, quand même, entre deux, donc il y a dès le lendemain l'effacement des femmes dans le domaine public, tout ce qui était affiches, instituts de beauté, enfin, il y avait des... Tout était... Les visages des femmes étaient complètement gribouillés, barrés, effacés. Elles ne peuvent plus travailler, enseigner, sortir sans burqa, sans une personne de sexe masculin, il me semble aussi. Elles peuvent aller à l'école en suivant les lois de la charia, le futur des femmes afghanes est en réel danger. Elles ne sont pas considérées comme humaines, sont interdites de sortie sans la présence d'un homme. Elles ne pourront pas travailler. On exécute des journalistes, des femmes, parce qu'elles ne portent pas la burqa. Même les taxis refusent de les prendre lorsqu'elles sont seules maintenant. Alors, donc, toutes les hôtesses de l'air, les avocates, les enseignantes, il y avait pas mal de femmes enseignantes à l'université. Enfin bon, tout ça, c'est des femmes qui gagnaient leur vie, qui avaient un salaire et qui se retrouvent du jour au lendemain interdites d'exercer, menacées. Donc, dur. Ces progrès réduits à néant.
C'est malheureusement insupportable parce que c'était prévisible et que c'était évitable. Et pour compléter ce que vient de vous dire Sabine, je vais vous lire un communiqué qui a été publié par Agnès Callamard. Agnès Callamard est la secrétaire internationale d'Amnesty et qui a écrit donc le 16 août, le lendemain de la prise du pouvoir des talibans à Kaboul. Elle voit ce qu'elle a écrit. « Ce qui se passe sous nos yeux en Afghanistan est une tragédie qui aurait dû être évitée et anticipée. » Elle ne fera que s'aggraver sans une action rapide et décisive de la communauté internationale. Des risques de représailles graves des talibans pèsent sur des milliers d'Afghans, c'est ce que vient de vous dire Sabine. Des universitaires, des journalistes, des militants de la société civile et des militants des droits des femmes sont en danger et risquent d'être abandonnés à un futur incertain. Les gouvernements étrangers doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que tous ceux qui risquent d'être ciblés par les talibans puissent bénéficier d'un passage sécurisé en dehors du pays. Cela implique d'accélérer les procédures de visa, d'envoyer du renfort pour évacuer l'aéroport de Kaboul, d'assurer que ces personnes soient relogées et réinstallées, et d'interrompre toutes les expulsions et les renvois forcés vers le pays. Nous demandons aux États-Unis d'assurer que la sécurité soit maintenue à l'aéroport de Kaboul pendant toute la durée des évacuations.
Tout est bloqué.
Donc ça, c'était le 16 août, hein, évidemment. Mmh. Depuis, les choses n'ont malheureusement pas évolué dans le bon sens. Elle continue donc à Agnès Callamard. Alors que le peuple afghan fait face à une nouvelle réalité brutale, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit adopter de toute urgence une résolution pour appeler les talibans, qui contrôlent à présent le pays, à respecter les lois internationales, à protéger les civils et à éviter les représailles pendant que la phase de négociation sur les dispositions transitoires se poursuit. Dans un autre communiqué, effectivement, Amnesty précise, donc qui datait aussi du 16 août mais qui n'est pas d'Agnès Callamard, d'Amnesty France, Amnesty précise, il y a donc urgence absolue. Au-delà du plan d'évacuation des ressortissants français, nous demandons du président Macron qu'il annonce que la France et l'Europe vont tenter de sauver le plus de vies possible parmi toutes les personnes aujourd'hui directement menacées. Toutes celles qui seront immanquablement soupçonnées d'avoir « collaboré » entre guillemets avec l'Occident, comme les interprètes, mais aussi les défenseurs des droits humains, les journalistes, les universitaires, les femmes qui ont pris des responsabilités, des personnels du monde de la culture et des personnes LGBT. Il faut mettre en place un plan d'évacuation immédiat à la hauteur de la situation actuelle, dramatique et urgente pour ces personnes. Et comme Clarisse vous l'a dit, effectivement, pour l'instant, on n'en a pas du tout pris le chemin.
Mais non.
Je ne sais pas si vous aviez su, mais c'était absolument scandaleux. Donc là, ça ne relève pas de la France, mais un attaché militaire britannique a fait rapatrier dans un avion charter qui faisait les expatriements, là, 200 chiens et chats d'une association de bestioles pour pouvoir les sauver, ces pauvres petites bêtes. Donc, au lieu de mettre des gens dans son avion, il a sauvé 200 bestioles. Voilà.
Ouais,
mais les priorités, et je trouve que c'était scandaleux parce que ça aurait
c'est lui qui a mis en place l'avion et tout ça. Hein.
C'était
pas un charter fait par les ONG pour sauver le... C'est une action personnelle qu'il a fait. Là.
Et pour terminer pour aujourd'hui, parce qu'on va y revenir...
Mais bon, c'est choquant.
Oui, c'est très choquant. Ouais.
Pour terminer, parce qu'on va y revenir dans les prochaines émissions, effectivement, sur le drame de la situation en Afghanistan, un autre communiqué d'Amnesty, juste un petit extrait, publié le 26 août, qui dit « Laisser tomber les civils en Afghanistan, donc, sera une grave trahison. Des rapports de plus en plus nombreux faisant état de violations des droits humains ont suscité des craintes sur le régime taliban à l'avenir. Au cours de la première semaine de leur prise de contrôle de la capitale, les talibans ont publiquement assuré aux femmes et à la communauté internationale que les droits des femmes seraient protégés conformément à la charia. Mais quelques jours plus tard, ils ont demandé aux femmes journalistes de ne pas se présenter au travail. » Depuis le 25 août, les rapports des collaborateurs de l'ONU indiquent que les talibans font du porte-à-porte à Kaboul pour rechercher des défenseurs des droits humains et des journalistes. Des centaines d'arrestations et d'enlèvements à Spin Boldak, à Kandahar, par les talibans ont également été documentés. À Jalalabad, au moins 3 personnes ont été tuées. Nos propres enquêtes sur le massacre dans la province de Ghazni sont la preuve que les capacités des talibans à tuer et à torturer n'a pas diminué. Voilà. Et pour vous engager quand même à faire quelque chose, alors si vous allez sur le site d'Amnesty France, donc Amnesty avec un Y.fr, vous avez la possibilité d'envoyer, vous tapez Afghanistan sur la page de le moteur de recherche sur la page d'accueil et vous tombez sur tous les communiqués et vous avez une action à faire à l'attention, c'est sous forme de mail ou de message SMS, à envoyer à l'attention de Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, pour lui demander de mettre en œuvre une politique d'accueil et d'accès à la protection donc des Afghans, adaptée à la gravité de la situation. Donc n'hésitez pas, moi je l'ai fait bien sûr, et n'hésitez pas effectivement à aller sur le site d'Amnesty, l'action est toute prête, vous n'avez effectivement qu'à la recopier et à l'envoyer par mail ou par SMS à Monsieur Gérald Darmanin pour rappeler à la France ses obligations en termes de défense des droits humains, et qui ne vont pas du tout dans le sens de la déclaration de M. Macron du mois d'août. Voilà. Je crois que, parce qu'on va arriver à la pause musicale, mais je crois quand même qu'il y avait Clarisse qui avait quelques mots à vous dire sur un tout autre sujet, mais c'était l'usage abusif de la matraque. Est-ce que tu peux nous résumer ça en 3 minutes?
3 minutes, il ne faut quand même pas exagérer non plus.
Non, mais c'est un gag.
Donc,
c'est un gag.
Alors, je vais peut-être arriver à me débrouiller, parce que moi j'ai pris mon ordi et c'est écrit gros. Parce que la pauvre Sabine, en fait, elle avait recopié son texte et elle n'arrivait pas à se relire. C'est ça qui était rigolo. Donc, ouais, je vais vous parler de ça parce que c'est un article qui est paru sur le site d'Amnesty juste là, au début du mois. Et ça reprend une étude sur ce qui se passe dans le monde actuellement. Et en fait, de la Colombie au Bélarus, en passant par la France, des matraques ont été utilisées abusivement par des agents des forces de l'ordre. C'est ce que nous avons analysé dans notre nouvelle enquête en répertoriant 188 incidents survenus dans 35 pays. C'est quand même pas rien et ça démontre un petit peu ce qu'on redoute. Hein,
on n'a pas compté ce samedi dernier.
Comment ?
Ils ne sont pas comptés ceux de samedi dernier.
Non, pas encore. Ils n'étaient pas comptés dans l'enquête.
Ils ne sont pas encore comptabilisés, non, ceux-là.
La Bretagne n'était pas encore comptabilisée.
D'accord.
Donc, notre nouvelle enquête, Force Brutale, enquête sur l'utilisation abusive des matraques de police et d'armes connexes, montre que les responsables de l'application des lois transgressent régulièrement le droit international relatif aux droits humains en attaquant des manifestants qui pourtant ne présente aucune menace ni de violence. Donc nous avons mené cette enquête avec la fondation de recherche Omega. Pour documenter les recours excessifs à la force, nous nous sommes appuyés sur des photos et des vidéos disponibles en libre accès provenant de 35 pays. Ces ressources sont des preuves qui montrent des cas de violente répression de manifestations par la police. Alors, les armes dites à impact cinétique manuel des forces de l'ordre, donc matraques et bâtons, peuvent causer de graves blessures et même la mort quand elles sont utilisées de façon inappropriée. 188 incidents sont documentés, 35 pays sont concernés, 500 vidéos ont été analysées. Alors, des exemples d'utilisation abusive. Donc, en Bélarus et en Colombie, en France, en Inde ou encore au Myanmar, les vidéos que nous avons analysées montrent des responsables de l'application des lois utiliser des matraques et des armes similaires pour frapper des personnes, pourtant déjà maîtrisées, porter des coups dangereux et non justifiés à la tête ou pratiquer des prises d'étranglement. Tiens, il y a justement un passe en jugement en ce moment. C'est une petite...
petite frappe.
Comment il s'appelait déjà?
Hébroïcienne.
Oui, Benalla.
Benalla.
Il est en train d'être jugé parce qu'il avait un casque de CRS et une matraque et il tabassait les manifestants.
Et puis
les
faux passeports. Voilà.
Il avait été en vidéo aussi.
Alors qu'il n'a jamais été policier d'ailleurs.
Non, mais il a été filmé. Bon, il passe en jugement en ce moment. Donc, nous avons analysé plus de 500 vidéos enregistrées pendant des manifestations entre 2011 et 2021. 188 cas d'utilisation abusive de matraques par les forces de l'ordre ont donc été identifiés.
Ils n'ont pas une bonne calculette, à mon avis. Hein.
Les vidéos de 5 cas analysées par notre laboratoire de preuves du programme, réaction aux crises et notre service de vérification numérique sont disponibles ici. Pour chacun de ces cas, nous expliquons en quoi les normes internationales ont été violées. Dans une vidéo filmée au Bélarus, on voit par exemple des policiers anti-émeutes faisant descendre des marches à un manifestant. Un policier le frappe derrière les jambes alors qu'il n'opposait aucune résistance à son arrestation. Au Bélarus, la torture aux portes de l'Europe. Pendant qu'il est maintenu par un policier, le manifestant est frappé derrière la tête à coups de matraque et frappé à coups de poing au visage et à l'estomac. Infliger des coups de matraque à une personne qui est pourtant maîtrisée est disproportionné. Cela signifie que les coups ont été administrés à titre punitif, ce qui constitue une forme de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Il s'agit bien là d'une violation des droits humains, ce que certains oublient fréquemment. Des armes souvent utilisées à mauvais escient, donc les instruments contondants sont des armes à létalité réduite, les plus couramment utilisés par la police et les forces de sécurité à travers le monde. Donc, ils comprennent les matraques, les latisses, c'est des bâtons longs, et les siambok, ce sont des fouets rigides. Comme ces équipements sont largement utilisés, ils font aussi partie des armes les plus souvent utilisées de façon abusive, en particulier dans le contexte de répression de manifestations. Donc, focus aussi sur l'utilisation des gaz lacrymogènes. Certains équipements et armes à létalité réduite peuvent avoir aussi un usage légitime pour l'application des lois s'ils sont utilisés correctement et conformément aux normes internationales. Les responsables de l'application des lois doivent faire face à des situations très diverses qui nécessitent parfois des décisions instantanées, souvent dans des circonstances très stressantes, voire dangereuses. Mais quelles que soient les conditions, le droit doit être respecté. Et donc, au terme des principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois, la police ne peut utiliser la force que dans un but légitime d'application des lois. Comme pour les autres équipements utilisés pour recourir à la force, les matraques ne doivent en aucun cas être utilisées pour infliger un châtiment. Ces règles s'appliquent également dans le contexte du maintien de l'ordre lors de rassemblements publics. Et donc, le processus de l'ONU, c'est le secrétaire général de l'ONU, il a chargé un groupe d'experts de présenter des propositions pour la création d'un cadre international réglementant le commerce d'équipements utilisés par les forces de police, comprenant des armes à létalité réduite, telles que les matraques et les gaz lacrymogènes. Ce groupe doit présenter son rapport à Amnesty, à l'Assemblée générale en 2022. Comme les armes couramment utilisées par les responsables de l'application des lois sont évidemment susceptibles d'être utilisées de façon abusive, tout cadre international de réglementation de leur commerce doit couvrir le spectre le plus large possible d'équipements de ce type. En fait, on peut toujours faire des lois. Après, il faudrait que ça soit respecté. C'est oui. comme sur le commerce des armes.
C'est
bon,
ça.
Bref, voilà.
Mais tant qu'on n'a pas de loi ou de traité, on ne peut pas officiellement s'opposer et demander des comptes à un État. Mais bien sûr, il faut effectivement que les lois et les traités soient respectés, ce qui est loin d'être le cas très souvent.
Et donc Verity Coyle, qui est conseillère sur les questions militaires de sécurité et de police pour Amnesty International, dit qu'avec la Fondation Omega, nous appelons les gouvernements à soutenir ce processus mené par l'ONU. Pour que les choses changent réellement, il faut que cette réglementation couvre tous les types d'armes, comme les matraques, les plus souvent utilisées de façon abusive à travers le monde par les responsables de l'application des lois, y compris la France.
Bien sûr.
Et les lacrymos aussi, parce qu'il y a eu un abus
impressionnant. On va écouter un petit peu de musique, on vous dira ce que c'est juste après, et on se retrouve effectivement pour la suite de notre émission. Retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International pour la suite de son émission. Bon, petite excuse technique, j'ai récupéré cette chanson sur YouTube pour ne rien vous cacher cet après-midi, mais le son n'était pas top, je viens de m'en rendre compte. Bref, j'espère que vous avez quand même à peu près suivi.
Alors, c'était qui, c'était qui, c'était qui, c'était
Donc c'était, elle s'appelle Sonita Alizadeh, c'est une très jeune, elle a une vingtaine d'années, c'est une très jeune rappeuse afghane. Et donc elle parle effectivement dans sa langue, hein, je ne sais pas laquelle c'est, en pachtoun ou en je sais pas la, autre langue afghane. Et donc la chanson, vous la trouvez sur YouTube sans problème, hein, Sonita Alizadeh, je rappelle son nom. Et la chanson s'appelle « Mariée à vendre » et elle parle bien sûr de tous les mariages forcés en Afghanistan et qui ont bien sûr pu reprendre ou qui reprennent grâce au retour des talibans, comme on vous le disait tout à l'heure. Donc voilà, on continuera nos actions par rapport à ça, bien évidemment. Pour continuer l'émission, je voulais vous parler d'un gros dossier, mais on va déjà manquer de temps, donc je vais vous le résumer en quelques mots. Je vais tenter de vous le résumer en quelques mots. C'est un dossier qui est paru dans La Chronique. La Chronique, c'est le mensuel d'Amnesty International France. On vous en parle à toutes les émissions. Il ne faut pas hésiter à s'abonner. Vous avez le formulaire d'abonnement sur le site d'Amnesty, amnesty.fr. Donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est une mine d'informations sur tous les droits humains et tous les sujets. Et c'est un sujet qu'on avait un petit peu abordé, mais qui me paraissait intéressant. Ça s'appelle « Compensation carbone, les effets secondaires ». Alors ça parle en fait de détérioration de l'environnement et de droits humains à travers ce qu'on appelle les compensations carbone. Donc, je vais juste vous lire en fait le début de l'article, parce qu'encore une fois, on va manquer de temps pour tout vous lire. Mais ça commence comme ça. Pour compenser leurs émissions de CO2, donc de gaz carbonique dans l'atmosphère, des multinationales financent des projets de reforestation dans les pays du Sud. Vous avez dû vous trouver dans le commerce, d'ailleurs, petite parenthèse, des articles où c'est marqué effectivement ce produit a été compensé carbone. Si cette pratique en vogue permet à des entreprises d'engranger des crédits carbone et de se racheter en bonne conscience, elle nuit parfois directement aux droits humains des populations locales. Donc voici le début de l'article. En mars dernier, Total a franchi un nouveau pas dans sa conquête de l'Afrique. Le géant pétrolier a annoncé la plantation d'une forêt de 40 000 hectares sur les plateaux Bakélé au Congo. Une partie des cultures devrait être exploitée pour la filière bois-énergie. L'autre serait préservée avec comme objectif des compensations partiellement, partiellement des émissions de CO2 du groupe. Comment ? Grâce à des arbres plantés qui ont le pouvoir de séquestrer ces rejets. C'est ce que l'on appelle la séquestration du carbone. 100 millions de dollars par an devraient ainsi être investis dans plusieurs projets de ce type dans les 10 ans. Avec une contrepartie pour l'entreprise sous la forme de crédit carbone. Ceux-ci correspondent à un nombre de tonnes de CO2 qui ne vont plus se retrouver dans l'atmosphère et la multinationale va pouvoir les retirer de son bilan carbone. C'est donc pour alléger son empreinte carbone que Total investit massivement. Cependant, certains lieux où sont plantés ces arbres pour compenser la pollution du groupe posent question. Le partenaire de Total, une filiale congolaise du bureau d'études français FRM, a acheté des terres auprès de chefs coutumiers. Ces derniers se comportent en propriétaires, alors qu'ils sont plutôt des gestionnaires de terres au nom de la communauté, pointe Alain Carensti, chercheur économiste au CIRAD. Ils n'ont vraisemblablement pas consulté les paysans qui cultivent du manioc. Or, la population locale a besoin de ces terres pour se nourrir et commercer. Jonathan Guyot, cofondateur de la communauté All for Tree, qui fédère les acteurs engagés sur les questions de préservation et restauration des forêts, pointe, pour sa part, une potentielle dérive d'accaparement des terres. De plus en plus d'entreprises veulent également devenir propriétaires de leurs propres forêts, explique-t-il. Un sentiment partagé par Jean-Maureen Jonran, chargé de plaidoyer souveraineté alimentaire et justice climatique au CCFD Terres Solidaires. La plupart de ces projets sont mauvais pour les populations comme pour la planète, car planter des arbres menace des terres agricoles et la souveraineté alimentaire, renchérit-elle. D'autant que pour être efficace, les puits de carbone doivent concerner de grandes étendues. Une perspective qui nuit directement aux petites exploitations et à l'agriculture vivrière, largement majoritaire dans les pays en développement. Au bout du compte, ce sont aussi les populations locales qui paie le prix du comportement des entreprises en quête de solutions alternatives à la limitation de leurs propres émissions de CO2. Bon voilà, c'était juste l'introduction de l'article. L'article fait plusieurs pages. Encore une fois, j'avais prévu de vous en lire beaucoup plus, mais bon, je vais m'abstenir de le faire. Donc effectivement, l'article explique très bien pourquoi, pour faire effectivement, sur le marché, du carbone, pour faire apparaître un bilan carbone positif, un certain nombre de multinationales, en fait, sous couvert de plantations de forêts, eh ben, vont à l'encontre des cultures vivrières, des intérêts des populations autochtones. Effectivement, c'est surtout en Afrique que ça se passe. Et donc, c'est un bilan carbone qui est en fait, sur un plan des droits humains, assez catastrophique. L'article continue, je vous en dirai juste un petit mot, parce qu'il explique aussi plus loin que même parmi les forêts qui sont replantées, on privilégie des pins, les forêts de pins, des forêts d'acacias ou autres, qui ont des croissances extrêmement rapides, mais qui sont très pauvres au niveau de la biodiversité, et qui donc, en fait, appauvrissent les terres sur lesquelles elles sont plantées. Pour la plantation, on utilise des produits aussi peu recommandables que du Roundup et des engrais chimiques. Et donc, effectivement, après, une fois que les forêts sont exploitées, qui sont exploitées au bout de 10-15 ans, c'est-à-dire bien avant la maturité des arbres plantés de cette façon-là, donc là aussi aberration écologique, les terres qui en résultent sont considérablement appauvries et ne peuvent pas être utilisées par les populations et les paysans qui les exploitaient auparavant de la même façon. Donc, quand on fait le total de ces bilans de compensation carbone qui est faite par Total, c'est pas la seule, hein, avec d'autres multinationales, il est cité dans l'article, une autre multinationale qui est norvégienne, dont j'ai oublié le nom, je vais vous le retrouver, qui s'appelle Green Resources, in English, donc ce qui veut dire ressources vertes.
C'est très écolo.
Voilà, qui est un nom complètement usurpé, parce que quand on lit l'article, on se rend compte que c'est une société, une entreprise privée norvégienne qui est extrêmement polluante sous cet aspect-là en Afrique. Donc, effectivement, tout ça, c'est ce qu'on appelle effectivement aussi avec un terme anglais du greenwashing, c'est-à-dire qu'on fait semblant de faire de l'écologie et du respect des droits humains à travers ça, alors qu'en fait, les conséquences sont exactement à l'opposé de ce qu'on prétend faire. Donc, voilà, c'est un dossier qui est extrêmement bien argumenté, qui explique bien ce que c'est que ce marché des compensations carbone, que je vous ai extrêmement résumé là, mais l'article l'explique très bien. C'est paru dans la chronique de cet été, la chronique d'Amnesty International, et c'est toujours en vente sur le site d'Amnesty. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour terminer sur la petite rubrique, après on s'étonnera effectivement de cette façon-là que les populations africaines et autochtones soient amenées à quitter leur pays parce qu'elles n'ont plus de moyens de subsistance et à venir frapper à la porte de différents pays, dont l'Europe, etc., etc. Retour à la case départ.
Flux migratoire excessif.
Voilà. Donc après avoir pillé l'Afrique à travers les colonies pendant des siècles, l'Europe, maintenant, sous couvert, enfin certaines sociétés européennes, sous couvert de bilan carbone et de respect de l'environnement, continue à faire la même chose.
Et continue à massacrer l'Amazonie.
Voilà.
Et à retirer des arbres centenaires, je ne sais plus si c'est en Nouvelle-Zélande ou... Mais des arbres, c'est affreux quand on les découpe.
Parle bien dans le micro, ma petite Sabine, parce que là, tu parlais un petit peu loin, on t'entendait mal, et ce n'était pas un problème de branchement de micro, c'était parce que tu étais un peu trop loin.
Je disais qu'ils continuent à massacrer l'Amazonie.
Tout à fait.
Et à retirer des arbres centenaires, plus que centenaires, dans certaines régions.
Tout à fait. Alors bon, comme on vous a parlé de choses un peu dramatiques depuis le début de l'émission, j'ai quand même récupéré aussi sur le site d'Amnesty quelques bonnes nouvelles depuis le début de l'année, donc je vais vous en faire un petit résumé. Donc, première bonne nouvelle, il y en a déjà 11 victoires marquantes en 2021, d'après Amnesty International. Le tribunal de Minneapolis a rendu son verdict le 25 juin 2021. Derek Chauvin en anglais, le policier reconnu coupable du meurtre de George Floyd. Je ne reviens pas sur le meurtre de George Floyd, hein, vous l'avez en tête.
Non, hein, mais c'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure sur les violences policières et sur
tout à fait.
La façon d'arrêter les gens.
Donc le policier a été condamné à 22 ans et 6 mois de prison. Un policier blanc condamné à 22 ans et 6 mois de prison aux États-Unis pour le meurtre d'un noir, c'est une grande première. Il n'y avait jamais eu de jugement aussi important. Dans la majorité des cas, les policiers étaient purement et simplement acquittés. Alors, après, autre bonne nouvelle, après 1001 jours de détention dans des conditions inhumaines, Loujain Al-Atloub, vous en a parlé aussi beaucoup au printemps dans des émissions, en Arabie Saoudite, est sorti de prison le 10 février, un immense soulagement. Pour autant, rien ne pourra compenser la cruauté des traitements qu'elle a subis, ni l'injustice de son emprisonnement. Loujain n'a jamais été une criminelle, c'est une défenseure des droits humains sanctionnée uniquement pour avoir osé prôner le changement pour les femmes de son pays. En Arabie Saoudite également, Nassima Al-Sada et Samar Badawi ont passé 3 années en prison pour avoir milité pour les droits des femmes. Elles ont été libérées au mois de juin. Autre bonne nouvelle, Germain Rukuki, défenseur des droits humains au Burundi, est sorti de prison. Il avait été condamné par les autorités parce qu'il militait pour l'abolition de la torture. Nous avions défendu sa situation lors de notre campagne annuelle 10 jours pour signer en 2020, organisée à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme. En France, vous avez été plus de 44 500 à signer notre pétition. Merci. Autre bonne nouvelle, Cédric Herrou a été relaxé définitivement après plus de 4 années de procédure. Un véritable acharnement judiciaire pour avoir simplement fait preuve d'humanité. Il avait en effet refusé de fermer les yeux sur la situation de centaines de personnes réfugiées et migrantes arrivant régulièrement dans la vallée de la Roya dans les Alpes-Maritimes. Cédric Herrou fait partie de ces héros de tous les jours qui nous prouvent que la solidarité et la fraternité peuvent triompher. Autre bonne nouvelle, pour un simple tweet, Loan Torondel, on en avait parlé aussi dans nos émissions, a bataillé 3 ans avec la justice, ça c'est en France. La Cour de cassation a fini par annuler la condamnation prononcée contre lui en septembre 2018. Il avait publié un tweet, effectivement, à l'époque, où il mettait en cause le comportement des forces de police. La condamnation de Ratko Mladic, a été ex-tortionnaire pendant la guerre civile en Yougoslavie, a été définitivement confirmée pour des crimes commis lors du conflit en Bosnie-Herzégovine. Condamnation pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Ce commandant des armées des Serbes de Bosnie est ainsi condamné à la réclusion à perpétuité. Autre bonne nouvelle, un représentant de l'État syrien a été condamné pour crimes contre l'humanité pour avoir torturé des manifestants. La Haute Cour régionale de Koblenz a prononcé une condamnation à 4 ans et demi de prison contre Eyad al-Sharib, un membre des forces de sécurité syriennes. Aux États-Unis, la Virginie devient le premier État de l'ancien Sud confédéré à abolir la peine de mort. Pourtant, c'est en Virginie qu'il y a eu le plus d'exécutions de toute l'histoire du pays. La Sierra Leone est le 23e État africain à aussi abolir la peine de mort le 23 juillet 2021. Le Parlement Sierra Leone a voté pour le droit à la vie. Le Kazakhstan a aboli la peine de mort. Le très autoritaire président Jomart Togayev a signé la ratification du protocole se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce texte oblige ses signataires à abolir la peine capitale. Les exécutions étaient suspendues au Kazakhstan depuis 2003. Les droits des femmes progressent. En Corée du Sud, l'avortement n'est plus un crime. La plus haute juridiction du pays a ordonné la levée de l'interdiction de l'avortement, jugée anticonstitutionnelle, et demandé une évolution de la législation. Bon, je vais aller plus vite pour la fin. En France, la loi sur la PMA a été votée. C'est la seule avancée majeure après près de 2 ans de discussion au Parlement. La loi sur la bioéthique permet entre autres d'ouvrir la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires et aux couples de femmes. Cependant, les personnes transgenres sont exclues de ce texte et ne peuvent toujours pas recourir elles aussi à la PMA. À quand une PMA pour toutes et sans discrimination ? Des journalistes obtiennent justice. Salafa Magdi est sortie de prison. C'est en Égypte. Après avoir passé 500 jours derrière les barreaux, elle a enfin retrouvé son fils de 8 ans et son mari. Un grand soulagement. Près de deux ans de procédure judiciaire et de mobilisation, et cette victoire enfin, le journaliste Taha Bouaf a été relaxé. Ça, c'est en France. Il était poursuivi pour outrage et rébellion envers les forces de l'ordre, alors qu'il a lui-même été violemment interpellé. Ces poursuites illustrent les entraves dont peuvent être victimes celles et ceux, qui filment la police. Voilà. Et enfin, dernière bonne nouvelle. Le Conseil constitutionnel a censuré 7 articles de la loi Sécurité globale, vous en avez parlé juste avant les vacances, votés par le Parlement le 15 avril. L'article 22 qui instaurait une surveillance généralisée par drone et l'article 24 qui empêchait la diffusion d'images de la police ont ainsi été censurés. Une victoire pour nos droits fondamentaux, même si la loi Sécurité globale, malheureusement, est maintenue et continue à s'y opposer. Voilà. C'était un petit résumé des premières bonnes nouvelles de l'année, mais ça me paraissait important de vous en parler. Voilà. Et donc, on avait dit qu'on... Alors, je voulais vous lire un tout petit communiqué pour finir.
T'es en train de me zapper tous mes articles, moi. Alors ?
Non, je vais vous renvoyer. Alors, je ne vais pas vous le lire. Excuse-moi, Claire-Lise, effectivement,
ouais, ouais.
J'avais oublié de noter son nom sur le conducteur. De noter ton nom sur le conducteur.
Bien sûr.
Je vais vous renvoyer aussi à la chronique.
C'est le préfet pour... aussi, il a fait ça quand on a fait l'audience. Il a oublié de mettre mon nom aussi.
Ne me compare pas au préfet. Donc, c'est, je vous renvoie à la chronique. C'est un petit article sur les ventes d'armes. La responsabilité. En termes de vente d'armes, la responsabilité de la France est engagée. Et c'est sur la chronique du mois de juillet et août. Là aussi, c'est très intéressant.
J'ai coupé le micro.
C'est très intéressant à lire, mais je vous renvoie à la chronique d'Amnesty. Claire-Lise, c'est à toi.
Alors, je vais renoncer à parler du Qatar aujourd'hui, mais je voulais quand même vous annoncer aussi une autre bonne nouvelle. Donc, c'est un article qui est paru le 2 septembre sur le site d'Amnesty. Et c'est un policier français qui a été condamné après avoir agressé un bénévole à Calais. Donc, les faits remontent en fait en 2018. Il aura donc fallu 3 ans pour que justice soit rendue dans cette affaire. Donc, le 2 septembre 2021, le tribunal de Boulogne-sur-Mer a condamné le policier qui avait agressé Tom Siotrowski, bénévole britannique engagé dans l'aide aux personnes migrantes et réfugiées à Calais, et qui avait fait de fausses déclarations contre lui. Donc, Tom, je ne vais pas répéter son nom parce que je n'y arrive pas, il a dit que
Comment il s'appelle, Tom ?
Son prénom, c'est Tom. Ces 3 années ont été longues et stressantes, mais je suis satisfait de voir la police devoir rendre des comptes de ses actes. Si les violences policières restent incontrôlées et impunies, c'est tout le système qui pourrit de l'intérieur. Il est indispensable que des faits de ce type puissent être filmés et révélés au grand jour. Donc, Tom Siotrowski. Voilà. Donc, c'est une décision importante dans une affaire qui est devenue emblématique des attaques de la police contre les personnes exilées et les défenseurs des droits humains qui leur viennent en aide en France. Nous espérons que ces poursuites, qui ont pu aboutir grâce à des éléments de preuve vidéo et à la détermination d'un petit nombre de militants, vont envoyer un signal clair selon lequel l'impunité face aux violences policières ne sera plus tolérée. Donc j'espère que cette décision contribuera à faire réfléchir sur l'environnement hostile à l'égard des personnes exilées à Calais et ailleurs et favorisera une nouvelle approche plus bienveillante envers les personnes qui luttent pour leur survie là-bas et envers celles qui essayent de les aider. Donc a déclaré Tom Siotrowski.
Tu vois qu'il arrive.
Et donc, je vous renvoie aussi par rapport à ça, parce que donc le policier, il avait formulé de fausses accusations contre Tom Siotrowski.
Il était violent.
Oui, oui, c'est ça.
Bah oui, oui.
Donc, bon, il a été condamné. Je ne veux pas vous relire tout, parce que ça reprend en fait ce que je viens de dire. Mais ce que je vous engage, c'est aller vers une pétition qui est toujours sur le site d'Amnesty. Et qui est encore ouverte jusqu'au 30 septembre 2021. Donc, c'est une pétition pour protéger les droits des... Enfin, protégeons les personnes qui protègent les personnes exilées. Donc, c'est les défenseurs des droits humains.
Et les bénévoles.
Voilà, c'est ça. Donc, aussi. Les personnes et organisations en France qui défendent les droits des personnes exilées, donc migrants, réfugiés, font l'objet de pressions de plus en plus importantes en raison de leur action pacifique et désintéressée. Mmh. C'est d'autant plus important dans le contexte politique pré-électoral, avec quand même des petites envolées lyriques de certains. Par exemple, les étrangers dans les avions. Enfin, j'ai entendu ça, je ne voudrais pas le redire fidèlement, mais... Ça va dans le sens des flux migratoires excessifs.
Oui, oui, bah bien sûr, on va entendre.
Donc, on en entend, et donc...
On va entendre un certain nombre de contre-vérités et de choses horribles dans les mois qui viennent. Faut pas avoir d'illusions.
Et donc, les personnes qui aident les migrants sont souvent pris pour cible, et dont nombreuses personnes ont été poursuivies pour délit de solidarité, notamment à la frontière franco-italienne. Pourtant, le protocole de Palerme, ratifié par la France... stipule qu'une personne ou une organisation qui apporte une aide aux personnes exilées et qui le fait sans contrepartie matérielle ou financière ne commet aucune infraction. Elle ne devrait donc pas être poursuivie en justice. De la même façon, en mer Méditerranée, les ONG qui ont permis de sauver de la mort des dizaines de milliers d'êtres humains font l'objet de campagnes de stigmatisation, d'entraves administratives, voire de poursuites judiciaires. Et ces ONG... qui agissent dans le cadre du droit international maritime, se substituent aux défaillances des États elles sont aujourd'hui littéralement empêchées de sauver des vies humaines. Enfin, à Calais, des représentants de l'autorité publique entravent le travail des personnes et des associations qui défendent les droits des migrants, allant jusqu'à les harceler alors qu'elles œuvrent chaque jour pour que les notions d'humanité et d'entraide continuent d'exister. Donc, ensemble, demandons aux autorités françaises qu'elles assument leurs responsabilités et mettent en œuvre leurs engagements internationaux à promouvoir et à respecter les défenseurs des droits humains. Voilà, je suis désolée, mais c'était important pour moi de placer ça là, maintenant.
Bien sûr. Malheureusement, ma pauvre Clarisse, tu es obligée de parler du Qatar la prochaine fois, je pense.
Parce que oui, là, c'est on ça, va c'est ce que j'ai dit. T'as pas entendu, mais je l'ai dit, j'ai abandonné le Qatar.
Si, si. Donc, quelques secondes de musique et on se retrouve juste après. Retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International, pour la toute dernière séquence de son émission. Il nous reste un peu moins de 10 minutes et on vient d'écouter Delgrez. C'est un groupe qu'on aime beaucoup à Amnesty parce qu'on vous rappelle qu'ils étaient venus dans un concert organisé avec l'aide de nos amis du Tangram, organisé au Cube, il y a plus d'un an maintenant. Oui, c'était bien avant le début du confinement. Et ils avaient fait un concert lors d'une soirée qui tournait autour de la thématique de l'esclavage et à laquelle Amnesty avait largement participé à l'organisation. Voilà. Donc, le groupe s'appelle Delgrès. C'est leur dernier disque. Et le morceau s'appelle Cat en Matin. C'est en créole guadeloupéen que je ne parle pas, mais qui parle des migrants qui viennent se lever aux aurores pour nettoyer les bureaux et les entreprises pour envoyer de l'argent dans leur pays. Ça vous dira forcément quelque chose. Voilà. Donc, information locale. Ça fait un lien, effectivement, avec ce que j'allais vous dire. Avec le Tangram, on va reprendre. Alors, on vous en parlera plus en détail à la prochaine émission, celle du 24, je crois, septembre. On vous en parlera plus longuement du détail de la programmation avec le Tangram. On a travaillé avec eux. On sera présent sur un certain nombre de pièces théâtrales pendant le courant de l'année et également sur des concerts musicaux. On est en train d'affiner tout ça, donc on vous en parlera plus la prochaine fois. Mais encore une fois, cette année, nos amis du Tangram nous ouvrent très grandes leurs portes pour qu'on puisse faire passer les messages d'amnistie et des droits humains, ce dont on se réjouit à l'avance. Il y a également un autre projet pour passer un film qui s'appelle Bigger Than Us, un film soutenu qui va sortir là au cinéma à la fin du mois, qui est soutenu par la Ligue des droits de l'homme et Amnesty International, qui parle d'engagement par rapport au dérèglement climatique, si j'ai bien compris. Et on a un projet de projection, là aussi on vous en dira plus la prochaine fois, parce que tout n'est pas encore réglé. On a un projet de projection avec la LDH ici à Évreux et avec l'aide du cinéma Pâté. Donc voilà, on vous en parlera encore une fois plus la prochaine fois. Et je crois qu'il y avait Clarlis qui avait quelques mots à vous dire sur une autre association qu'on connaît bien.
Solidarité Migrants, il y a l'association Un Toit Sous la Main. Donc cette association, elle est issue du réseau d'éducation sans frontières et du collectif Solidarité Migrants pour essayer de trouver des solutions d'hébergement pour les personnes en situation irrégulière qui ne sont pas prises en charge par le 115. Et des fois, ce sont des familles avec des enfants ou des femmes souvent seules avec des enfants ou des personnes malades aussi qui se retrouvent sans hébergement. Donc, pour essayer de pallier au manque des pouvoirs en place, cette association essaye de mettre en place des hébergements solidaires et des fois finance l'hébergement solidaire pour les personnes. Alors c'était vrai pour des mineurs non accompagnés, mais c'est vrai aussi parfois pour des mères avec des enfants. Alors cette association, à ce jour, elle héberge 80 personnes. Elle contribue à l'hébergement de 80 personnes sur le département, ce qui est énorme parce que c'est une petite association. Donc, je vous invite à vous mettre en contact si vous pouvez aider. Si vous avez l'occasion, si vous avez une grande maison, si vous avez la possibilité de faire des relais pour des hébergements solidaires, des relais d'une semaine ou des relais d'un mois ou plus, si vous pouvez, pour héberger des personnes, de vous mettre en contact avec l'association Un Toit Sous la Main ou, si vous le souhaitez, de faire des dons à cette association pour aider à des hébergements de personnes qui sont en grande difficulté. Alors, il y a je vais vous donner le site,
le mail
de cette association pour que vous puissiez rentrer directement en contact avec eux. Donc, c'est Un Toit Sous la Main. Alors, Un Toit, T-O-I-T, S-L-M pour sous la main, @laposte.net. Voilà. Donc.
Tu nous répètes ?
Et un en chiffre.
Un en chiffre, Toit, T-O-I-T, en toutes lettres, S-L-M pour sous la main, @laposte.net. Parce que, enfin, on rigole parce que Didier m'avait inventé une adresse mail avec un Gmail, donc ça n'aurait jamais marché.
Oh, voilà. Ben non, ça n'aurait pas marché, mais c'était plein de bonne volonté, c'était de mémoire. Ouais. Voilà.
Non,
mais,
voilà.
Mais encore une fois, ce que fait Vincent Breuil, qui est déjà intervenu pour d'autres émissions avec nous, dans la série, entre autres, Fréquence Droits Humains, ce que fait Vincent Breuil avec l'association Un Toit Sous la Main, c'est tout à fait remarquable, effectivement, et c'est des aides concrètes qui sont indispensables, vu la carence des officiels pour assurer l'hébergement des gens qui sont en attente de dossiers, etc., etc., etc. Voilà.
Donc on accepte les aides de tous ordres, aides matérielles, aides financières,
ou aide une grande maison, ou une petite chambre, éventuellement pour dépanner, pourquoi pas.
Et de toute façon, toutes les associations, que ce soit Un Toit Sous la Main, nos amis du réseau Éducation Sans Frontières, ou du CFED, ou Amnesty International, on est toujours aussi en attente de vos aides. Si vous avez du temps, si vous avez envie du temps à consacrer et si vous avez envie effectivement d'agir pour les droits humains, il y a un certain nombre de structures sur Évreux, dont la nôtre évidemment, qui y participent. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Ça me donne l'occasion aussi de vous rappeler le mail d'Amnesty Évreux. Donc c'est Évreux, sans accent, Évreux@AmnestyFrance, tout attaché, Amnesty avec un Y à la fin, AmnestyFrance.fr. Evreux@amnestyfrance.fr. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour nous donner vos coordonnées si vous souhaitez faire un petit bout de route avec nous ou avec une autre association, mais enfin bon, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Donc, si vous avez envie de rejoindre les rangs d'Amnesty International, ce serait avec grand plaisir. Voilà.
Et il y a Manu qui est rentré dans le studio, il faut qu'on rende l'antenne mon petit gars.
C'est ça. Donc, effectivement, on rend l'antenne, on laisse la place au laboratoire et à Manu qui vient d'arriver, qu'on salue pour la rentrée, on ne l'avait pas encore vu. Et on vous donne rendez-vous le... Alors, j'avais noté, c'est le mardi 28 septembre pour la deuxième émission.
T'as dit deux fois le 24 tout à l'heure.
Non, c'est le 28. Le mardi 28 septembre pour la deuxième émission d'Amnesty sur l'antenne de Principe Actif.
Et une grande pensée à au personnel soignant qui traverse en ce moment une période assez difficile.
C'est vrai, mais il faut qu'on rende...
Tout notre soutien.
C'est vrai, mais il faut qu'on rende l'antenne.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.